Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la première lettre de l'apôtre Pierre. Et je vais lire avec vous 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 17. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui nous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans votre cœur le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Toutes les personnes, et même des chrétiens, qui ont un caractère, un tempérament combatif et ou rancunier, comme on le voit chez Pierre, lors de ses trois premières années avec le Christ, considéreront, ne serait-ce qu'au fond d'eux, que ce passage est pour les naïfs, pour les faibles, alors que eux ou elles ne se laissent pas dominer, ne sont pas du genre à s'écraser. D'autres, au caractère plus doux, pourraient avoir un peu honte de leur personnalité et se dire qu'ils devraient moins se laisser faire face à ceux ou celles qui les insultent, voire les maltraitent. D'abord, je vous invite, et ce sera le cœur de ce message, à regarder ce que l'apôtre Pierre nous écrit et ce qu'il a vécu au sujet de notre relation avec les non-croyants. Je vais plutôt mettre l'accent là-dessus, mais vous verrez à la suite ce que nous a amené à penser dans notre relation avec les croyants. Ce texte, en effet, présente deux parties. Une dans la relation entre chrétiens, puisqu'il parle d'être plein d'amour fraternel. Il y a une deuxième partie, à partir du verset 14, on pourrait considérer, qui s'adresse plus à la relation que nous avons avec les non-croyants, ou ceux que nous considérons comme n'étant pas des chrétiens authentiques, et qui auraient envers nous un comportement injuste. L'apôtre Pierre nous dit que d'abord, nous pouvons nous défendre, mais avec douceur et respect. Il dit en ce qui concerne notre foi et notre espérance en Christ, mais avec l'apôtre Paul, il serait tout à fait d'accord, et vous verrez que c'est le cas de l'ensemble de ce passage, pour dire que cette règle d'agir avec douceur et respect s'applique quels que soient les domaines de notre vie. Même quand nous ne sommes pas confrontés à des personnes qui nous harcèlent, qui nous maltraitent à cause de notre foi en Jésus-Christ. Même comme nous sommes simplement face à des membres non-croyants de notre famille, face à des voisins, des collègues, des employeurs, de simples passants dans la rue, dans les transports, qui ont à notre égard une attitude inappropriée. Les circonstances peuvent varier. On peut être face à des gens qui nous persécutent à cause de notre foi, ou face à des gens qui ont tout simplement une attitude négative, peu importe notre foi. Mais nous, nous devons rester un rocher inébranlable, parce que celui qui est en nous et celui sur qui nous nous appuyons, sa parole et son être même sont inébranlables, invariables. C'est un vrai défi, quel que soit notre tempérament, notre caractère, colérique ou plus peureux, parfois on est les deux. Mais le Seigneur nous le dit, nous devons être la même personne, avoir le même cœur, quelle que soit la situation. Parfois, les personnes qui nous offensent, même quand nous nous défendons avec douceur et avec respect, persistent et signent. Pierre écrit que si telle est la volonté du Seigneur, alors acceptons de souffrir à cause de ces injustices, en continuant à faire le bien. Ces personnes avec lesquelles nous sommes amenés à vivre ou à collaborer, le Seigneur nous dit, voilà, continue, s'il le faut même à endurer, dans le silence de la prière, en leur faveur. Pierre a mis en pratique ce qu'il enseigne. Ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose qu'il a vécu. Et en fait, ce n'est pas si simple de savoir très exactement comment se comporter avec un non-croyant qui a avec nous une attitude que nous jugeons inacceptable. Regardons très brièvement les trois premières années de Pierre avec Jésus, et en fait en particulier la toute fin de sa marche avec le Seigneur quand il était sur terre. Quand le Seigneur est sur le point d'être arrêté, Pierre est prêt à l'affrontement. Sauf qu'en fait, c'était le moment de se laisser, pour Jésus-Christ en tout cas, de se laisser faire au bon vouloir de ses adversaires. Pierre, lui, estime que c'est le moment d'agir, de prendre les armes, et il coupe l'oreille d'un soldat. Par la suite, dans les heures qui suivent, alors que c'est le moment de prendre position et de marquer sa fidélité au Seigneur, de défendre avec douceur et respect son appartenance à Jésus-Christ, que fait-il ? Il fuit. Trois fois, il trahira l'Éternel. Donc ce n'est pas si simple de toujours être dans le bon tempo selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas de règle toute faite, toute écrite. C'est dans le Saint-Esprit, à partir de la Pentecôte, que Pierre va être en mesure de trouver ce bon tempo qui ne dépend pas des circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui dictent le tempo, c'est le Seigneur. Il y a trois options à avoir lorsqu'on se trouve face à des adversaires non chrétiens. La première, c'est de s'en aller. La deuxième, c'est de confronter avec douceur et respect. Et la troisième, c'est d'accepter, de supporter l'injustice dans le silence de la prière en faveur de nos adversaires.
Pour ce qui est de s'en aller, à plusieurs reprises, celui que nous appelons Seigneur, lui-même, il a quitté sa position. Il aurait pu agir autrement, il en avait tout le pouvoir. Mais plusieurs fois, il a échappé à ses adversaires, qui cherchaient à le jeter d'un précipice, qui cherchaient à le lapider, ou quand d'avance ils savaient qu'ils allaient arriver, ils partaient loin d'eux, en Galilée, et parfois même jusque dans le territoire de Tyr. Cette position, elle n'est pas pour les faibles, elle est pour ceux qui disent, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça nécessite beaucoup d'humilité, de soumission à Dieu, de savoir faire ça. Et pour ceux qui sont peureux à ce moment-là, ça nécessite encore une fois de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne reste pas paralysée, mais je m'échappe. Pour ce qui est de confronter avec douceur et respect, là encore, quand on regarde tout le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, supérieure encore à la belle première alliance, nous voyons, si on examine les textes, que seul Dieu s'est autorisé à faire preuve de force. Seul Jésus a pris un fouet. Seul Jésus a parfois, sans doute, haussé le ton. Quand il leur dit, par exemple, « Vous m'outragez », qu'il les reprend en les traitant de tombeaux vides, de races de vipères, etc. Seul Dieu est légitime à faire cela. Et encore, lui, le Saint, 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 est lent à la colère et riche en bonté. Mais tous les autres, apôtres Pierre, Paul, ne s'en sont jamais autorisés à cela, en disant « Ma colère n'accomplit pas la justice de Dieu ». Pour ce qui est d'accepter, de supporter, d'endurer l'injustice, en priant pour nos ennemis, il y a tellement de témoignages de chrétiens qui ont vu l'action de Dieu dans leur voisinage, sur leur lieu de travail. Dieu agit soit en changeant le cœur de ces personnes, ou alors il utilise ces situations pour ceux qui sont témoins des agissements déplacés. Et ces personnes-là qui regardent comment nous, chrétiens, nous nous comportons, ils pourront voir combien, dans l'épreuve, l'armure de Dieu et l'amour de Dieu tiennent bon. Combien cette cuirasse, ce casque du salut, ce bouclier de la foi, cette ceinture de la vérité tiennent bon quand on est sous pression. Combien l'amour de Dieu en nous tient bon quand on est sous le feu des offenses, des injustices. Mais pour y parvenir, encore une fois, nous avons tellement, tellement besoin de Dieu. Ce n'est ni par notre force, ni par nos qualités intérieures, mais par l'Esprit Saint que nous pouvons y parvenir. Alors, à l'exemple de son Seigneur, avec le Saint-Esprit, Pierre a su trouver le bon tempo, se défendre avec douceur et respect face aux religieux. On le voit au chapitre 4 et 5 du livre des Actes des Apôtres. Et quand il fallait s'en aller, il s'est échappé de prison. On le voit dans Actes chapitre 12. Il voyait ce que Dieu faisait. Ce n'est pas lui qui décidait. Un jour, il a été capable d'accepter de souffrir le martyre dans la prière. à chaque fois quand il fallait se défendre, s'en aller ou endurer. Il vivait le « non pas ma volonté, mais la tienne ». On aimerait avoir une réponse toute faite à la question « que faire face aux injustices ?» Mais la réponse, depuis toujours, c'est que nous devons consulter Dieu. Ce verbe est tellement important. Consulte. C'est vraiment une marque de respect à son égard. Quand nous prenons nos décisions comme ça, en pensant d'emblée savoir ce qu'il est juste de faire, de dire, de penser, en réalité, nous lui manquons de respect. Observons ce qu'il est en train de faire. Quand, par exemple, il ouvre les portes pour nous dire « quitte ta position ». Même en situation d'injustice ou d'urgence, de danger imminent, les croyants avant nous ont montré que jamais la réponse, le comportement va de soi. Il nous faut prendre le temps, ne serait-ce qu'une minute, cinq minutes, avant d'agir, d'interroger Dieu, de vraiment lui poser la question. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vraiment répondre? Est-ce que je dois vraiment prendre ce téléphone? Est-ce que je dois vraiment écrire cette lettre, entamer cette démarche? Le Seigneur nous appelle à avoir un cœur rempli de paix, rempli d'amour. Et ce comportement, ça ne doit jamais changer. La paix et l'amour. La façon de se comporter va varier en fonction de la réponse que le Seigneur nous donne quand nous acceptons de prendre un temps dans le silence. Alors, si tel est le cœur et le comportement à avoir face à des non-chrétiens, à combien plus forte raison devons-nous face à des chrétiens qui parlent et ou agissent mal? L'apôtre Pierre reconnaît que oui, il y a des frères, des sœurs qui agissent mal, qui peuvent même nous injurier. Mais rappelez-vous que ce Pierre qui avait tendance à être rancunier, on le voit dans Matthieu chapitre 18, il demande à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? Serait-ce sept fois ?» Peut-être espère-t-il que Jésus va baisser un peu ses exigences. Parce qu'il en parle dans l'évangile de Luc, en tout cas il avait mentionné cette notion de sept fois. Eh bien Jésus lui dit, 70 fois, sept fois à mon frère. Tout ce texte, écrit par Pierre, est issu de son vécu avec le Seigneur et est connecté avec l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, l'enseignement du Maître. Ce texte fait sans cesse écho au sermon sur la montagne, aux béatitudes, chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, où il nous redit « Aimez vos ennemis, bénissez-les, priez pour eux, faites-leur du bien. » Est-ce que nous avons vraiment ce plein d'amour fraternel dans nos cœurs pour tel frère, telle sœur qui nous irrite, qui nous agace, qui selon nous agit mal? Posons-nous la question et prenons devant le Seigneur le temps de reconnaître, est-ce que nous avons ce plein d'amour? Est-ce que nous agissons comme le Seigneur nous le demande? Est-ce que nous prions pour ce frère, pour cette sœur, afin qu'il puisse ou qu'elle puisse se repentir? Ou est-ce que nous laissons cette personne dans sa façon d'agir? Est-ce que Dieu peut dire, oui, je t'ai vu prier pour tel frère, telle sœur. Je t'ai vu demander la bénédiction divine en sa faveur. Je t'ai vu faire le bien. Est-ce que Dieu pourra répondre positivement? Et dans ces temps de prière qui nous appellent à avoir, nous pourrions être surpris que Dieu nous invite aussi nous-mêmes à nous remettre en question. Mais on ne peut recevoir cela que lorsque l'on accepte de faire silence. Notons qu'il y a là un enjeu spirituel majeur. Pierre donne un avertissement déjà au passage précédent, au verset 7, quand il aborde la question des relations entre mari et femme et épouse, il dit « Agissez bien, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Et dans le passage que nous méditons ce matin, il répète cet avertissement, cette fois au verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et il soulignait que cette chose, ce comportement est primordial. Donc, si nous voulons que nos prières soit exaucé. On voit en fait, quand on lit ces deux passages sur le comportement vis-à-vis des chrétiens et des non-chrétiens, que le mot « heureux » revient à deux reprises. Il y a là un enjeu non seulement de sanctifier le Seigneur, de lui faire honneur, mais aussi de notre propre bonheur. On peut se dire, j'agis comme mon naturel, mon tempérament naturel m'y pousse. Mais le Seigneur nous dit, en réalité, tu es en train de t'auto-détruire. Fais le bien afin de voir des jours heureux. Quand bien même tu souffrirais l'injustice, tu serais heureux. Là encore, Pierre nous dit, souvenez-vous de l'enseignement de celui que vous appelez Seigneur. Pour conclure, renonçons donc à la colère et refusons la peur. Comme Pierre nous le disait, ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte. Ce sont là les défis que le Seigneur nous lance. Allons-nous mener ce qui, selon Dieu, est le bon combat? C'est en fait un combat contre nous-mêmes, contre nos caractères colériques et ou peureux. Ce combat ne sera jamais gagné une fois pour toutes. Nous aurons régulièrement à nous exercer. Et comme Pierre, nous allons échouer plusieurs fois, souvent. Mais ne baissons pas les armes. Ayons l'humilité de consulter Dieu et de lui demander son aide. Parce que nous ne suivons pas une lettre morte dont on se dirait « je connais d'avance la réponse, il suffit de regarder ce qui est écrit ». Nous suivons un Dieu vivant qui veut une relation vivante avec nous. Nous suivons des témoins qui sont vivants et qui regarde, et qui écoute. Comment nous allons relever ces défis et combattre le vrai bon combat? Prions. Père céleste, nous voulons honorer le fait même que tu nous as donné ce privilège immérité de t'appeler Père. Tu as fait de nous tes enfants, ta famille. Et nous savons ce que désire un père. C'est non pas de voir la zizanie, la division, les querelles, les disputes entre ses enfants, dans sa famille, mais c'est voir régner l'harmonie. C'est voir des frères et des sœurs qui sont prêts à plier le genou, qui sont prêts à renoncer à leurs bons droits. Et si mutuellement nous faisons cela, si mutuellement nous avons les mêmes sentiments, la même pensée, ton nom sera honoré, ton cœur de père sera rempli de joie. Et nous recevrons la bénédiction dans notre cœur même, dans notre intérieur extraordinaire, de l'Esprit Saint qui n'est plus attristé, mais réjoui. Nous verrons alors tellement plus nos prières exaucées, parce que ton regard et tes oreilles sont sur le juste, alors la prière peut être efficace. Je prie, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de tes faveurs sans même nous en rendre compte. Que nous ne passions pas à côté, Seigneur, de l'impact que tu veux que nous ayons dans le monde parce que nous choisissons notre propre combat. Mais donne-nous de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen.